franceinter.fr.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, Chine 1966, la révolution culturelle, l'histoire d'une génération perdue. Je suis maoïste, car pour Mao, un bon programme, c'est ce qui marche. La phrase d'un intellectuel, du dictateur coréen, d'un dirigeant chinois, non. Il s'agit d'une déclaration en mars dernier d'Emmanuel Macron, le nouveau président de la République française. Cette légèreté à s'inscrire dans le sillage du leader communiste chinois trahit l'engouement, la fascination et surtout l'incompréhension qu'a suscité la révolution culturelle en France et dans le monde occidental. Désormais, quand ils écrivent la révolution culturelle, historiens et sinologues entourent la formule de guillemets. Une manière de préciser qu'ils ne sont pas dupes, eux qui travaillent sur cet épisode tragique qui s'étendit en Chine sur une décennie de 1966 à 1976. Ils savent que cette révolution n'a pas grand-chose de culturel, qu'elle a même plutôt des allures de coup d'État. Quand Mao Tse-tung se lance dans l'aventure, il fait le choix de la violence comme reconquête d'un pouvoir bientôt totalitaire. Ce choix qui plonge la Chine dans un chaos proche de la guerre civile. Aujourd'hui encore, l'histoire de cette période se construit du dehors par des Chinois en exil et des spécialistes étrangers. Face au blocage de Pékin, ces hommes et ces femmes recueillent les témoignages, confrontent les archives disponibles, enquêtent comme ils peuvent. Parmi eux, la sinologue Marie Holzmann, que nous recevrons en seconde partie d'émission et avec qui nous parlerons de ces questions d'histoire. Elle a notamment dirigé l'ouvrage de Song Yongzi, Les massacres de la révolution culturelle, publié en 2008 chez Buchet-Chastel. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Simon Maisonneuve avec l'appui des documentalistes de Radio France, attachée de production Valérie Priollet, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation David Jakubowicz, à la technique aujourd'hui Patrick Henry.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
La révolution culturelle. Qu'est-ce que ça signifie culturel? Nous donnons-nous une acception particulière au mot culturel? Ça représente les œuvres de l'art, de l'esprit.
Étienne Manac, ancien ambassadeur de France en Chine, 1975.
Nous estimons que la littérature et l'art appartiennent toujours à une classe et existent pour la servir. On se sert toujours de la littérature et l'art comme d'une arme de la lutte politique de classe.
En Chine, il y a autre chose. Il y a un aspect, je ne craindrais pas même le dire, un aspect humaniste. Il s'agit de faire un homme nouveau.
Non, je ne crois pas en Dieu. Je crois le marxisme, le léninisme.
Et dans quel sens? Faire une révolution lorsque la révolution a déjà été faite, ça signifie empêcher que la révolution ne se sclérose.
Je pense que cette influence peut dire que c'est très grand.
On peut dire que l'influence de la révolution culturelle a été pour moi très importante. Toutes mes opinions en ont été bouleversées. Avant la révolution culturelle, nous obéissions aveuglément au parti. Nous faisions tout ce qu'il nous disait de faire sans réfléchir.
La révolution n'est jamais terminée. Voilà la pensée de Mao Tse-tung.
J'étais un garde rouge. J'étais inconscient parce que nous étions très très endoctrinés par la pensée de Mao Tse-tung.
Et il faudra que de temps en temps, il faudra qu'il y ait chez nous une nouvelle révolution culturelle.
Quand on a découvert que mon oncle s'est suicidé, donc ma famille était considérée comme une famille contre-révolutionnaire. Non, ce mot était inconnu de ma vie.
C'est juillet 1966, Wuhan, une ville de la province du Hubei, dans le centre de la Chine. Démarre ce jour-là la 11e course annuelle du Yangtze qui traverse le pays d'est en ouest. Une édition particulière puisque, sous le regard des spectateurs interloqués, suivis par l'œil d'une caméra subjectivement placée, entourée par 6 gardes du corps attentionnés, un participant et non des moindres s'invite à la compétition, Mao Tse-tung lui-même. Pourquoi celui qu'on surnomme le grand timonier, désormais âgé de 72 ans, vient-il se baigner en ce mois de juillet 1966 ? Une partie de la réponse se trouve dans la déclaration qu'il fait à une femme qui nage non loin de lui. Le Yangtze est profond et son courant rapide. Cela peut exercer votre corps et renforcer votre force de volonté. En un mot commençant, Mao est de retour. Cette mise en scène, c'est autant une mise au point qu'un défi. Le Yangtze sera son Rubicon. Car depuis quelques années, Mao Tse-tung est en retrait du pouvoir. La cause, l'échec tragique de son grand bond en avant, une politique d'industrialisation des campagnes réorganisée en communes populaires. Lancée à l'hiver 57, avec pour objectif de rattraper les pays capitalistes d'ici peu, elle provoque en fait une famine sans précédent et la mort de plus de 30 millions de Chinois. Les critiques à son encontre commencent à poindre et Mao sent bien qu'il pourrait être mis à l'écart. En 1962, il est même directement mis en cause par Liu Shaoqi, qui lui a succédé 3 ans auparavant au poste de président. Pourtant, au cœur de cette lutte interne au Parti communiste chinois, Mao parvient à maintenir son autorité. Il le sait, malgré cet échec, il est toujours auréolé d'un statut hors du commun auprès de la population. Oui, car il est l'homme de la longue marche, celui qui a mené les communistes au pouvoir et renversé les nationalistes de Chiang Kai-shek, celui qui a proclamé le 1er octobre 1949 à Tiananmen la fondation de la République populaire de Chine, celui qui a rendu à la Chine sa dignité après des années d'humiliation coloniale. Mao a donc décidé de reprendre les rênes du pays. Cette volonté est aussi liée au contexte extérieur. L'année 1962 est marquée par la rupture des relations avec l'URSS. La déstalinisation opérée par Khrouchtchev et sa politique de détente sont vécues comme une trahison par Mao. Surtout, ce dernier voit l'occasion d'offrir un modèle pour les pays du tiers-monde et de prendre la tête du mouvement communiste international. À cela, il faut ajouter la montée des périls avec l'intervention américaine dans le Vietnam voisin. Reprise en main intérieure, ambition extérieure, en ce mois de juillet 1966, à nager au milieu du fleuve Yangtze, Mao l'annonce symboliquement. Le moment est venu, il va mettre en action un plan qu'il prépare depuis plusieurs mois. Ce 16 juillet 1966, en même temps qu'il lance une nouvelle mode pour la baignade, Mao amorce un mouvement politique à l'ampleur inouïe.
En effectuant récemment 15 km à la nage dans le Yangtze-Kiang, Mao Tse-tung a déclenché une extraordinaire campagne nationale en faveur de la natation. La nage, a écrit Mao Tse-tung dans un poème, développe un esprit courageux et entretient la combativité en prévision d'une éventuelle offensive américaine en Chine. Alors de Suatou ou Canton, dans le sud, à Carbine, dans le nord, jeunes et vieux, des millions de Chinois se jettent à l'eau. Toute la Chine est dans l'eau, nage ou apprend à nager. Il faut imaginer des milliers de jeunes plongeant ensemble, en chantant, en criant dans les eaux tumultueuses de certains fleuves. Leur seule préparation, la lecture des œuvres de Mao Tse-tung. L'étude et l'application correcte de la pensée permettent de résoudre tous les problèmes et donnent la clé de tous les énigmes. Ceux qui n'admettent pas ou qui n'acceptent pas la pensée, ils sont rares, sont éliminés et écartés des postes de responsabilité. Ils subissent une sorte de stage de rééducation civique pour retrouver la ligne correcte.
Pour bien comprendre le mécanisme de la révolution culturelle, il faut remonter quelques mois avant cette démonstrative baignade, à un moment où Mao et ses alliés mettent en place les premières manœuvres de leur reconquête. Novembre 1965, Shanghai. Ce jour-là apparaît dans l'un des plus importants quotidiens de la ville, Wen Huibao, sous la plume du journaliste Yao Wenyan, un article dans lequel l'auteur s'attaque à un historien, Wu Han, auteur d'une pièce qu'il dénonce comme une critique déguisée des idées de Mao. C'est la première étincelle de la révolution dite culturelle, car l'homme qu'on cherche à atteindre n'est pas un historien, mais un dirigeant politique particulièrement influent et connu pour son hostilité à Mao Tse-tung. Cet homme, c'est Peng Zhen, le maire de Pékin. Mais pourquoi passer par un article contre un historien pour s'attaquer au maire de Pékin? Tout simplement parce que ce dernier est trop important pour être affronté directement. Or, habilement, Mao confie à ce même Peng Zhen, la direction du groupe de la Révolution culturelle, en charge de surveiller ce qui est ou non conforme à la pensée maoïste. Peng Zhen est bloqué. Il essaie de protéger son ami l'historien, mais se retrouve rapidement pris lui aussi au piège. En renonçant à le condamner, il s'affiche lui aussi critique. Et quelques mois plus tard, il est accusé à son tour de révisionnisme et doit quitter son poste. La manœuvre fait ses preuves. Cet épisode résume le mécanisme de la révolution culturelle. L'idée de Mao Tse-tung consiste à passer par le champ culturel, donc, pour imposer son combat idéologique et renforcer son pouvoir. C'est pour cette raison qu'il a nommé sa femme, Jiang Qing, quelques années auparavant, à la tête du secteur des arts et de la culture. En coulisses, elle supervise aussi un groupe d'intellectuels, dont le journaliste Yao Wenwan, auteur de l'article contre l'historien. L'objectif de cette bande des quatre, comme l'appelle Mao, faire passer la pensée de Mao, qui s'attaque au révisionnisme et aux routiers du capitalisme au sein du parti et de la société, à bon entendeur.
Mes parents, n'est-ce pas, aiment le président Mao, parce qu'ils savent bien, avant la libération, ils vivaient dans la misère. C'est le président Mao et notre gouvernement. Et le Parti communiste nous a sauvés. Sans le président Mao et le Parti communiste, nous n'avons pas d'aujourd'hui. Moi, je ne pouvais pas aller à l'école. Et maintenant, je suis un étudiant.
Vous comprenez très bien que lorsqu'on interroge des jeunes chinois, oui, ils disent à peu près tous la même chose, qu'ils sont tous très contents du président et du Parti communiste.
Oui.
Est-ce que c'est de la propagande?
Non, c'est pas la propagande, c'est la vérité.
Vous répétez toujours tous les mêmes choses?
C'est pas répéter, on aime le président Mao.
Après cette première étincelle, la révolution culturelle est officiellement lancée le 16 mai 1966. Sur ordre de Mao, le Parti communiste chinois annonce la grande révolution culturelle prolétarienne destinée à éliminer de l'appareil les éléments de la bourgeoisie infiltrée. En somme, Mao réactive la lutte des classes. Il organise une révolution dans la révolution contre l'idéologie féodale, les cadres qui se bureaucratisent et les menaces capitalistes. Et quoi de mieux pour donner aux idées le pouvoir du soulèvement que de les imprimer sur du papier dans un livre? Celui-ci est tout rouge, enrobé d'une couverture plastique de 9 cm sur 12, imprimé sur du papier fin et d'excellente qualité d'ailleurs. 300 pages qui tiennent dans la poche. 300 pages de citations de Mao, d'abord distribuées aux soldats de l'armée, puis rapidement à toute la jeunesse. Car voilà le cœur de cible de Mao, la nouvelle génération. D'ailleurs, le 25 mai 1966, une semaine après le lancement officiel de la révolution culturelle, dans l'université de Pékin, Nie Wanzi, la secrétaire du Parti communiste au département de philosophie proche de Jiang Qing, la femme de Mao, rédige le premier Dazibao, une affiche à grand caractère, sur laquelle elle appelle les étudiants à se rebeller contre leurs professeurs. Mao qualifie ce Dazibao d'authentique document marxiste-léniniste et en publie lui-même un exemplaire dans lequel il encourage la jeunesse à bombarder les états-majors. Les jours qui suivent, des centaines d'autres Dazibao apparaissent dans les universités. Mao tient sa base. Il revient à Pékin et organise le 18 août le premier d'une série de grands rassemblements sur la place Tiananmen. Le correspondant de l'agence France Presse commente l'une de ces manifestations de masse.
Le groupement, le rassemblement a commencé dès ce matin vers 9h. Le but de cette manifestation, n'est-ce pas, est encore inconnu. Mais l'impression, c'est que sans doute, ceux qu'on appelle à Pékin les Hongweiping, c'est-à-dire les gardes rouges, n'est-ce pas, vont s'unir devant les leaders chinois avec des groupes d'ouvriers et des groupes de militaires. Parce que il y a également dans les rues environnant Tiananmen et sur Tiananmen même, sur la place, des détachements importants de militaires.
Le 18 août 1966, lors de ce premier rassemblement, on découvre les gardes rouges, bras séculiers de la révolution culturelle. Une image marque les esprits. Une jeune étudiante entoure le bras de Mao d'un brassard rouge. Tout au long du mois d'août 1966, Mao organise ses gigantesques réunions où l'union entre les jeunes révolutionnaires qui brandissent le petit livre rouge et leur leader, qui les salue de loin, est éclatante. Formés au sein des universités par les jeunes étudiants, souvent fils de cadres du parti, exaltés, encouragés par Mao Tse-tung, les gardes rouges sont invités à se débarrasser des quatre vieilleries, les vieilles idées, la vieille culture, les vieilles coutumes et habitudes. Une attaque d'abord portée contre les choses. Les jeunes étudiants détruisent les temples, changent le nom des rues, s'attaquent aux œuvres d'art. Des livres sont brûlés, des statues déboulonnées. Tout ce qui rappelle la culture ancienne, les traditions et les mœurs est considéré comme réactionnaire et doit disparaître pour laisser place au nouvel ordre, guidé par la pensée Mao. Après les objets, ce sont aux hommes que s'attaquent les gardes rouges. De nouveau, Mao cible la liste des 5 catégories noires, considérées comme révisionnistes et capitalistes. Les propriétaires fonciers, les paysans riches, les contre-révolutionnaires, les mauvais éléments et les droitiers. C'est d'abord à leurs professeurs que s'attaquent les jeunes gardes rouges. À Pékin, au mois d'août, les premières séances de lutte voient le jour. Des hommes et des femmes sont contraintes de prendre la position de l'avion, assis, les mains dans le dos, une pancarte à leur cou dénonçant leurs crimes, pendant qu'elles sont insultées, humiliées, battues. De l'extérieur, l'appel à la révolution séduit également, comme en témoigne cet étudiant chinois en France qui décide de rentrer au pays.
Nous sommes venus à Rennes depuis plus de 2 ans.
Pourquoi partez-vous ?
Pour répondre à votre question, je cite tout d'abord une citation du président Mao. Le président Mao a dit « C'est au cours des luttes de classe qu'apparaissent les continuateurs de la cause révolutionnaire du prolétariat. C'est au milieu des grandes tempêtes révolutionnaires qu'ils se forgent et grandissent. C'est précisément pour cette raison que nous voulons participer à la grande révolution culturelle. »
Si cette jeunesse s'engage avec tant de volonté dans le processus révolutionnaire, c'est qu'elle est encouragée par Mao, mais aussi parce qu'il s'agit pour elle d'une immense explosion de liberté. Dans une société jusque-là contrôlée, autoritaire, contrainte, sous la tutelle du parti, nourrie depuis l'enfance par les récits de la grande révolution communiste d'avant-guerre, ces jeunes sont conviés à leur tour à mener leur révolution. Face à la montée des violences, au sein du parti, on tente d'abord d'empêcher, voire de limiter, les débordements. En réponse, Mao et ses alliés interviennent pour laisser libre cours à la révolution. Août 66 écrit les premières lignes de son surnom tragique, le mois sanglant. Le déchaînement de violence est sans commune mesure. On fait état de 100 à 200 meurtres par jour dans Pékin. Des milliers de personnes sont déportées hors de la ville. Partout, des hommes, des femmes, des familles entières, souvent de façon totalement arbitraire, sur simple dénonciation ou soupçon, sont perquisitionnés par les gardes rouges. Les maisons sont vidées, détruites, les hommes et les femmes sont battus à mort, parfois poussés au suicide. La fièvre meurtrière s'étend bientôt dans les campagnes. Par exemple, à la fin août, dans les villages du district de Daxing, au sud de Pékin, on s'en prend aux propriétaires terriens. Plus de 300 personnes meurent et des familles entières sont tuées. En quelques semaines, Mao Tse-tung a enclenché sa révolution culturelle préparée depuis plusieurs mois. Toute rébellion est juste, dit-il. Il faudra peu de temps pour que la situation dégénère et se transforme en chaos.
Don't you know it's gonna be? Should we do all right? Should we do?
Si vous le voulez bien, Jean-Vincent, nous allons revenir maintenant à cette affaire de suicide de Pékin. Est-ce que vous êtes en mesure de les confirmer, de confirmer que dans certains cas, il y a eu tentative, ou dans certains autres, que des hauts dirigeants chinois se sont donné la mort?
Ce que je peux vous confirmer, c'est que hier, n'est-ce pas, j'ai vu moi-même une affiche sur laquelle il était écrit que Lu Zhuqing, l'ancien chef d'état-major de l'armée chinoise, s'était bel et bien suicidé. Deuxièmement, cette affiche disait que le secrétaire général du Parti communiste chinois, Deng Xiaoping, avait tenté de se suicider sans y parvenir.
Une dernière question, Jean-Vincent, compte tenu du rapport des forces en présence, pensez-vous que Mao Tse-tung va finalement sortir vainqueur de cet affrontement?
On n'a jamais eu l'impression que Mao Tse-tung n'ait jamais été perdant.
Au début de l'année 67, la situation chinoise est chaotique. Les journalistes présents sur place ont du mal à se procurer des informations fiables et ne savent pas à quoi s'en tenir. C'est qu'au plus haut sommet de l'État également, on est perdu. Comme en témoigne un exemple, en particulier celui de Shanghai.
Est-ce que vous savez ce qui se passe le long du Yangtze-Kiang à Nankin et à Shanghai? On a parlé d'une grève générale à Shanghai.
Il n'y a pas eu de grève. Shanghai, ce qu'il y a eu, ce sont des arrêts de travail. C'est-à-dire des arrêts de travail dans un sens qui n'est pas celui qu'on peut croire, n'est-ce pas, quand on a une conception occidentale du syndicalisme, mais il s'agit d'arrêts de travail parce que, certainement, des instructions ont été données par certains dirigeants qui, peut-être bien, n'étaient pas d'accord, soit avec le président Mao Tse-tung, soit avec certains de ses représentants de Shanghai. Si vous voulez, on a l'impression, ça, pour résumer quelque chose qui est impossible de résumer tellement c'est complexe et immense, on a l'impression que ce qui se déroule en ce moment en Chine est partiellement une opération de propagande. Il s'agit de reporter une victoire.
Le 5 février 1967, Shanghai, deuxième ville du pays. Plus d'un million de personnes sont réunies sur la place du peuple, dans la capitale industrielle chinoise. Elles acclament les rebelles qui viennent de prendre le pouvoir. Dans cette ville, la révolution culturelle donne naissance à une commune populaire. À la suite de grèves massives, travailleurs et étudiants garde rouge réunis s'appuient sur des directives lancées par Mao pour renverser le pouvoir. Alors, ils prennent le contrôle de l'administration, des journaux, des usines. Shanghai illustre le point de bascule de la révolution culturelle. Dans un premier temps, Mao salue l'initiative. Il y voit le renversement effectif d'une classe par l'autre et la concrétisation symbolique du mouvement lancé quelques mois auparavant. Mais au bout d'une vingtaine de jours, le pouvoir central et l'armée réalisent que la situation leur échappe. Les grèves paralysent l'économie et la prise du pouvoir autonome de la ville ouvre la voie à une décentralisation. L'armée intervient et le mouvement est désavoué. Shanghai devient le symbole du chaos qui règne dans le pays. Au sein même du mouvement, une sorte de compétition révolutionnaire voit le jour. Des tensions apparaissent entre les différentes factions de garde rouge. Des groupes rebelles naissent, accusant les premiers de ne pas être assez révolutionnaires. Ces affrontements internes et cette surenchère augmentent encore les violences. Au début de l'année 67, Mao doit réagir. Il ordonne à l'armée d'intervenir pour empêcher l'anarchie et reprendre le contrôle sur la situation.
En Chine, c'est l'entrée en scène de l'armée qui constitue l'élément le plus intéressant de ces dernières heures. Il se confirme de diverses sources que les militaires ont pris le contrôle de la ville de Pékin.
C'est sur l'ordre de Mao Tse-tung lui-même et en accord avec les divers organismes gouvernementaux qu'un comité de contrôle militaire aurait été chargé de coiffer la police de la ville de Pékin afin, dit-on, d'accélérer l'élimination des anti-maoïstes.
Et quant aux diplomates soviétiques, ils auraient, paraît-il, reçu des assurances.
Un coup de téléphone du ministère des Affaires étrangères chinois à l'ambassade du RSS aurait assuré aux diplomates qu'ils pourraient maintenant sortir sans risque. Mais les diplomates soviétiques seraient plutôt circonspects.
À partir de cette décision, la révolution culturelle entre dans une nouvelle phase, celle qui fera le plus de morts. Avec l'intervention de l'armée, le pays est à feu et à sang. Les affrontements gagnent toutes les régions du pays et la violence s'accroît. Un exemple parmi d'autres, à Dao, dans le sud de la Chine, deux milices de garde rouge s'opposent, l'Alliance Rouge et l'Alliance Révolutionnaire. Le leader de la première, Yong Bingsen, met en place au début de l'été des cours de justice pour les paysans pauvres et lance une série d'épurations contre les catégories noires, comme il les appelle. C'est le cas de la famille He, qui un beau jour voit débarquer la milice chez elle. Le père de famille, enseignant, est condamné à mort pour vue antisocialiste. Lui, sa femme, l'un de ses fils et sa fille sont emmenés en bordure du village, les mains ligotées dans le dos. Sans autre forme de procès, il est décapité sous les yeux de ses enfants. Puis c'est au tour du fils. Les femmes, elles, sont contraintes de se marier pour survivre. Au total, dans la région de Dao, à la fin de l'été 67, on compte plus de 7000 meurtres, dont 4000 enfants, et plus de 1000 suicides forcés. Et Dao n'est qu'un exemple d'une situation qui vire à la folie dans l'ensemble du pays et qui prend des formes diverses. Dans le district de Wuxuan, dans la province de Guangxi, au sud-est du pays, on recense des cas de cannibalisme en célébration des mises à mort, oui. À Wuhan, au centre de la Chine, on assiste à une véritable guerre lorsque des milices syndicales, soutenues par la garnison locale, affrontent à l'arme lourde les unités de l'armée dépêchées par le groupe central de la révolution culturelle pour rétablir l'ordre. Tout au long de l'année 1967, la révolution culturelle de Mao plonge le pays dans la guerre civile.
En Chine, les informations fragmentaires qui nous parviennent semblent indiquer qu'il se passe dans le pays des événements peut-être extrêmement graves. Le conflit entre Mao et les gardes rouges, entre certains éléments du parti et de la population, prend parfois la tournure d'un choc entre Pékin et la province. Hier, le journal britannique très mesuré, cependant, le Times, en arrivait à la conclusion que Mao Tse-tung est fou.
Et aujourd'hui, le très sérieux Sunday Telegraph écrit « L'opération garde rouge atteint maintenant un stade où même les sinologues ne peuvent plus trouver d'explication qui veut dire quelque chose. Eux aussi sont forcés d'admettre que le président Mao, dans un accès de démence, a déchaîné une vague de folle hystérie. »
À partir du début de l'année 68, l'armée reprend petit à petit le contrôle de la situation sur l'ensemble du territoire. Mao envoie des équipes de propagande, formées de soldats et d'ouvriers à travers tout le pays pour rétablir l'ordre et mettre au pas les gardes rouges. À tous les niveaux, les administrations locales sont remplacées par des comités révolutionnaires. La République populaire communiste prend des allures de dictature militaire. Les dénonciations, la répression et la peur gagnent tout le pays. De nouveau, des affrontements ont lieu entre l'armée et les factions des gardes rouges qui refusent de se soumettre. Après avoir fait souffler le vent de la liberté sur toute une génération, Mao décide de la mettre au pas. Il met en place les écoles du 7 mai pour les cadres, dans le but de les rééduquer. Pour prolonger l'expérience révolutionnaire des jeunes, il lance le mouvement des jeunes instruits. Plus de 16 millions d'étudiants sont envoyés dans les campagnes pour recevoir l'enseignement des paysans, nouvelle étape dans l'abolition des classes. Une stratégie qu'il avait déjà utilisée dans les années 50. Une jeune instruite récite les bienfaits, selon elle, de cette méthode.
Donc avec mes élèves et d'autres professeurs, nous sommes allés à la campagne pour nous faire rééduquer. J'ai vu de mes propres yeux combien les paysans travaillaient dur. Et pourtant, ils se contentaient de si peu. Tandis que nous, les intellectuels, nous vivions 10 fois mieux qu'eux. Alors je me suis demandé combien de paysans et d'ouvriers devaient se priver pour permettre à une intellectuelle comme moi de se spécialiser dans une certaine branche de science. J'ai réfléchi, j'ai beaucoup réfléchi à cette question et puis j'ai compris bien des choses. À partir de ce moment-là, j'ai pris la résolution de mettre mes connaissances au service des travailleurs.
Mao Tse-tung clôt la révolution culturelle fin octobre 1968 au cours de la 12e réunion du comité central. Et s'il peut le faire, c'est qu'il a réussi à reprendre la main, bien sûr. Il est également parvenu à se débarrasser de la plupart de ses adversaires politiques, au premier rang desquels le président Liu Shao, qui lui aussi accusé de révisionnisme et de trahison, il est emprisonné. La plupart des rivaux de Mao au sein du parti subit le même sort. Séance d'humiliation publique dans d'immenses stades de football, insultés, tondus et battus par la foule. Débarrassé de ses adversaires, Mao Tse-tung peut ouvrir le 9e congrès du parti communiste chinois le 1er avril 1969 comme l'aboutissement du plan lancé 3 ans auparavant.
C'est un festival, si vous voulez, essentiellement chinois,
qui, les soviétiques ne vont certainement pas manquer de le dire, ne constitue pas le congrès d'un parti communiste, mais plutôt le congrès, entre guillemets, d'un mouvement nouveau, c'est-à-dire essentiellement nationaliste et maoïste. C'est spécialement intéressant d'analyser la participation des gardes rouges, puisque c'est vraisemblablement la première fois qu'un congrès du Parti communiste se déroule en présence de jeunes gens, surtout qui ne sont pas même théoriquement membres du parti.
Nous en revenons ainsi à Mao Tse-tung, l'acteur principal, le forgeron de la révolution culturelle. Ce 9e congrès est la consécration personnelle de Mao Tse-tung et de sa pensée, n'est-ce pas ?
Bien sûr.
Mais quand, au juste, la révolution culturelle se termine-t-elle ? Pour Mao, c'est en octobre 68, quand il l'annonce. Pour le pouvoir, ce serait un an après, avec ce congrès qui entérine ce coup d'état de masse organisé en coulisses et mis en pratique dans tout le pays. Pour les historiens, la révolution culturelle se prolonge encore plusieurs années, avec notamment le mouvement des jeunes instruits qui s'étend jusqu'au début des années 80 et qui marque profondément toute une génération. Quoi qu'il en soit, à partir de 1969, la rupture est consommée, le régime a changé de nature, l'armée a pris un poids considérable et Mao a renforcé son culte de la personnalité en même temps que son aura. On peut donc étendre la révolution culturelle jusqu'à sa mort le 9 septembre 1976. Quelques jours après, le pouvoir central donne le sentiment de boucler la boucle avec l'arrestation de la bande des quatre qui avait déclenché l'étincelle de la révolution 10 ans auparavant. Leur procès s'ouvre en 1980.
Secret en Chine, maximum de publicité à l'extérieur, telle est l'ambiance dans laquelle commence le procès. Il s'est ouvert à 15h, heure locale, dans la rue Tsenyi, derrière le musée de la Révolution et derrière la fameuse place Tiananmen. Bien entendu, le public ne peut assister à ce procès qui est présidé par un juge spécial et le président de la Cour suprême. Il commence donc dans une atmosphère de méfiance, de drame, puisque vous le savez, Madame Chen Qing, l'épouse de Mao et les trois autres accusés de la bande des quatre ont refusé d'utiliser des avocats. Les réactions du peuple chinois, on va s'arracher les journaux pour essayer de voir comment on détruit d'anciennes idoles si proches de Mao sans détruire Mao lui-même. Les réalistes au pouvoir à Pékin veulent donner aux étrangers l'impression que la nouvelle Chine fait la grande lessive et tourne le dos au passé.
Ce procès participe d'une stratégie globale du nouveau pouvoir, désormais aux mains des pragmatiques, incarné par le nouveau président Deng Xiaoping. L'objectif est de sauver le parti et la République populaire de Chine. Il faut donc, à la fois, condamner la tragédie de la révolution culturelle, tout en préservant le culte de Mao, qui aura réussi à provoquer à terme l'inverse de ce qu'il souhaitait avec la révolution culturelle, réveillant en effet chez toute une génération l'aspiration à la liberté, à l'ouverture, une génération que l'on retrouvera en 1989 sur la place Tiananmen. Malgré tout, cette stratégie du pouvoir perdure jusqu'à aujourd'hui. L'histoire de cette période en Chine est interdite. Elle se construit petit à petit, clandestinement, par le récit de ces jeunes instruits rentrés désabusés des campagnes, par l'ouverture partielle des archives, par le témoignage, enfin et surtout des victimes. Ces récits portent un nom en Chine, on les appelle « littérature des cicatrices ». Il est temps d'écrire l'histoire de leurs blessures.
Constant growing up.
Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, la révolution culturelle en Chine. Notre invité, Marie Holzmann, sinologue. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez notamment dirigé l'ouvrage de Song Yongyi, Les massacres de la révolution culturelle, publié en 2008 chez Buchet-Chastel. Commençons par la fin, si vous voulez bien. On parle d'une histoire qui reste à faire. En quoi, en Chine, cette histoire n'est-elle pas réglée en tant que phénomène historique et pourtant une réalité incontournable, mais alors qui a provoqué aussi tellement de blessures qu'on en arrive à parler de littérature des cicatrices. Donc on en est où en Chine dans la façon d'aborder cette période de l'histoire du pays?
Eh bien, après la révolution culturelle, à la fin de la révolution culturelle, pendant à peu près 10 ans, il y a eu une période où justement on a vu émerger cette littérature de cicatrices. C'était une période, on pourrait presque dire, les années dorées d'après la révolution culturelle, et un certain nombre de choses ont été écrites. Mais c'était plus sur un mode émotionnel que sur un mode de recherche historique et d'analyse des forces politiques en présence. Ensuite, il y a eu le massacre de la place Tiananmen. Et ça, ce massacre est un tournant fondamental dans l'histoire de la Chine contemporaine, parce qu'à partir de ce moment-là, c'est un nouveau type de pouvoir qui s'est installé, c'est-à-dire on peut faire et parler de l'argent, mais pas de politique. Et depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, c'est-à-dire en 2012, là il va avoir terminé ses premiers 5 ans, on assiste à un étrange retour, c'est-à-dire Xi Jinping s'appuie sur le passé maoïste de la Chine et dernièrement, par exemple au cours de la dernière Assemblée nationale populaire en mars 2017, il a été dit que s'attaquer à la mémoire des héros révolutionnaires, donc ça, héros révolutionnaires, on peut mettre un peu n'importe
oui,
qui sous cette
qui,
étiquette,
finalement.
Oui, peu importe, s'attaquer à leur mémoire, c'est un crime. Sous-entendu contre-révolutionnaire. Aujourd'hui, on dit plus contre-révolutionnaire, on dit tentative de subversion de l'État. Mais donc, évidemment, le héros des héros, c'est Mao. Il est impossible aujourd'hui de dire quoi que ce soit contre la personnalité de Mao et donc de rouvrir ces dossiers de la révolution culturelle. Et le plus célèbre historien de la révolution culturelle qui vit encore en Chine aujourd'hui, Xu Youyu, est pratiquement condamné au silence en ce moment.
L'État et le parti ont quand même reconnu la responsabilité du pouvoir dans la révolution culturelle. Et alors, ils ont fait le bilan de Mao, je crois, en 10 ans, 70% positif, 30% négatif. C'est cette façon de contourner la réalité.
San Chi Kai en chinois, donc 3 mauvais, 7 bons. Alors, pour les 7 bons, on fait évidemment une part très belle à la libération, c'est-à-dire 1949, le retour à la paix, une société évidemment plus égalitaire et le retour à une vie paisible, c'est-à-dire effectivement les paysans ont pu se remettre plus ou moins à travailler au champ, les ouvriers à travailler à l'usine, et là aussi les premières années du régime ont été une espèce de retour à une vie à peu près normale après des années de déchirement. Il y a eu la Deuxième Guerre mondiale et ensuite la guerre civile entre Kuomintang et Parti communiste chinois. Donc c'est là-dessus que s'est appuyée cette propagande maoïste et il y a eu toute une, alors là aussi une forme de littérature qui était Yi Ku Si Tian, c'est-à-dire qu'il fallait se souvenir de l'amertume d'avant 49 pour goûter la douceur des années des années 1950 et la suite.
Alors on va revenir un peu quand même sur l'épisode révolution culturelle en tant que tel. Il y a quelque chose d'à la fois une manœuvre politique incroyable de Mao pour renforcer son pouvoir. En même temps, il y a quelque chose de totalement absurde dans la façon dont ça se passe. On dit à des jeunes, faites votre révolution. Après, on s'aperçoit qu'on est en train de perdre le contrôle. Et donc, il y a une surrépression qui vient ensuite. On a du mal à comprendre les tenants et les aboutissants de cet épisode-là.
Oui, mais le mot, c'est pas absurde, c'est machiavélique.
Oui,
c'est tout sauf absurde. Tout est calculé. Ah non.
C'est absurde, en tout cas, dans le bilan humain. Mais bon, je sais pas.
Ah, c'est atroce dans le bilan humain. Mot, ouais. Mais si vous voulez, il y a une véritable logique. C'est-à-dire que le président Mao sait, enfin, autant qu'il puisse savoir, mais il sait ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'au tout début, il faut bien voir dans quel état est la société chinoise en 1966. Mao s'est attaqué, en arrivant au pouvoir, aux propriétaires terriens, comme il disait, donc les riches paysans, en quelque sorte. Mmh. Il les a plus ou moins éliminés. Ensuite, bon, il y a eu les bourgeois, donc ceux qui savaient diriger des usines, diriger des hôpitaux, diriger des grands hôtels, ils ont été éliminés. Et ensuite, il a encouragé les intellectuels à s'exprimer. Les intellectuels ont beaucoup hésité. Finalement, ils ont émis quelques critiques plus ou moins timides à l'égard du gouvernement chinois. C'était aussi la période du rapport Khrouchtchev contre Staline. Donc Mao s'est senti très inquiet. Lui était le Staline de la Chine. Il voulait pas qu'il y ait un rapport Khrouchtchev contre lui. Donc quand il a vu que les intellectuels chinois auraient peut-être pu prendre ce chemin-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé peut-être 500 000 d'entre eux se faire réformer dans le Laogai, c'est-à-dire le goulag chinois. Ces malheureux intellectuels ont quand même passé près de 20 ans, pour la plupart d'entre eux, soit à nettoyer les latrines, soit à construire des baraques dans Mongolie intérieure, au Xinjiang, dans le désert de l'ouest de la Chine, etc., etc. Après, ça a été le grand bond en avant. Donc là, il y a eu quelque chose comme 30 millions de morts de famine parmi les paysans, pas parmi les citadins.
Donc, on l'a rappelé,
tous les secteurs de la société avaient évidemment une dent contre Mao, on peut dire. Enfin, ils n'étaient quand même pas des admirateurs inconditionnels. Donc, qu'est-ce qui restait? Les jeunes. C'est-à-dire, quand les jeunes, en 66, arrivent, disons, à une forme de maturité, mettons, à l'âge de 15 ou 16 ans, ils n'ont jamais connu autre chose que la Chine révolutionnaire. Donc, pour eux, c'est quelque chose de relativement naturel. Et quand le président Mao leur dit « Vous êtes notre soleil de 9h du matin », c'est-à-dire, vous êtes ceux qui allez porter l'avenir de la Chine, vous allez grandir, arriver à midi, etc. Donc, c'est à vous de prendre le pouvoir. Mais ça, c'est complètement hypocrite, parce que il sait très bien qu'il peut manipuler la pensée de ces jeunes, comme il ne peut plus manipuler la pensée d'aucun autre segment de la société chinoise. Alors, si vous dites à des jeunes adolescents de 15-16 ans qu'ils ont le droit de se retourner contre leurs parents
et leurs profs,
vous pensez bien que ça marche. Et en plus, quand vous leur dites le pouvoir est au bout du fusil et que, en gros, vous pouvez y aller, vous pouvez leur taper dessus, nous, on vous soutient, eh bien, ça provoque les massacres de la révolution culturelle.
Et il y a un moment où il y a eu un regard un peu subjugué, voire beaucoup d'ailleurs, en France, sur cette révolution culturelle. On va écouter une archive. Nous sommes en 1967, donc en pleine révolution dite culturelle. Et c'est André Malraux, de Retour de Chine, qui parle.
La révolution dite culturelle, car elle s'appelle en chinois révolution culturelle prolétarienne, et l'accent est sur prolétarien tout de même, a été extrêmement mal expliqué ici, parce que, en règle générale, ceux qui ont vu n'ont pas été très instruits par ce qu'ils ont vu. Et ceux qui connaissaient la question pour avoir suivi le développement de la Chine, en France, sont extrêmement peu nombreux. Mais enfin, pourquoi est-ce qu'il y a cette manie d'employer toujours le mot culturel là-dedans? Il semble que la culture n'ait rien à y voir. C'est pourtant pour une raison excessivement forte. C'est que, sans aucun doute, dans l'esprit de Mao, l'essentiel est... Il y a une individualisation en Chine qui est restée beaucoup trop forte. Nous ne pouvons faire la véritable épopée que dans une désindividualisation complète. Et j'appelle révolution culturelle ce qui consiste à détruire ce qui reste d'individus et ce qui, le cas échéant, avec n'importe quel révisionnisme, augmentera les caractères de l'individu. On oublie trop ici que Mao a réussi d'une façon éclatante des communes populaires. Les obstacles étaient immenses, mais la réussite est éclatante. Les Chinois ne viennent pas d'un individualisme à l'occidental. Autrement dit, chaque fois que nous reprenons ce point de vue de Mao, nous avons tendance à nous dire, prenons un occidental et mettons-le dans cette situation, il la trouvera intolérable. Mais si on donnait un bol de riz par jour aux Français, ils trouveraient ça intolérable aussi. Quant aux Chinois, jusque-là, ils mangeaient les écorces. Il y a une tentative de Mao qui est l'une des tentatives psychologiques les plus considérables que l'humanité ait jamais tentée. Il veut véritablement faire ce qui a été dans certaines théories communistes, mais qui n'a jamais été appliqué. Il y a donc là quelque chose d'absolument considérable.
50 ans après.
C'est très saisissant, mais là où Malraux a raison, c'est que dans cette révolution culturelle, l'élément culturel est très important, parce que Mao a tout fait pour détruire la culture chinoise. Il a détruit la littérature. Pendant des années, on n'a plus rien écrit. Il a détruit l'art traditionnel. Il n'y avait plus la possibilité de regarder les pièces de théâtre, les opéras de Pékin d'antan. Il a détruit le rapport, la relation entre enfants et parents en demandant aux enfants de dénoncer les parents, ce qui a engendré une culpabilité qui n'est pas éteinte aujourd'hui. Mmh. On le sent encore. Il a détruit les vieux temples, il a détruit les lieux de culture, il a détruit toutes les traditions, justement, de respect, de piété filiale, etc. Et après son décès en 1976, ces vieilles traditions sont réapparues, certes, mais très abîmées. Donc, sur ce plan-là, oui, c'était une révolution culturelle dans le sens que ça a détruit complètement la culture.
Est-ce que vous établiriez un lien entre le mouvement de protestation dit de Tiananmen en 1989 et les aspirations de la jeunesse chinoise, d'une certaine jeunesse chinoise, quelques décennies auparavant ?
Aucun. Aucun. Mmh. Il y a eu deux mouvements de révolution, disons mouvement démocratique à Pékin, un en 1978-79 et un en 1989. Celui de 78-79 a été porté par des anciens gardes rouges, donc qui ont connu les méfaits terribles, quoi, les destructions de la révolution culturelle, et qui ont été tout de suite attirés par des formules démocratiques. Ils ont été attirés par les droits de l'homme et en particulier par les syndicats, puisqu'à l'époque, on parlait beaucoup du syndicat de Lech Walesa, Solidarność, et ils ont dit, nous, on veut la même chose.
Un modèle, quoi.
Mais ils n'étaient que quelques dizaines à demander cela. La répression a été immédiate. Ils ont fait entre, disons, 15 et 19 ans de prison pour chacun des leaders. Et lorsqu'en 1989 a éclaté le second mouvement de revendication démocratique, ces leaders-là étaient tous en prison et totalement inconnus des jeunes qui descendaient dans la rue. Il faut savoir que l'histoire est interdite en Chine. Donc les jeunes de 1989, en fait, ne connaissaient pas la révolution culturelle, ou ils en avaient des échos très distorsionnés, quoi. Ils comprenaient pas ce que c'était. Et ce qui s'était passé en 78-79, ils n'en savaient rien du tout. Donc leur revendication s'appuyait beaucoup plus sur ce qui se passait en Russie, et notamment Gorbatchev. Donc, Glasnost et Perestroïka, ça avait été traduit en chinois, et ça, c'était désirable. Donc, on peut dire que d'une certaine façon, juin 1989 est une espèce de phénomène avant novembre 1989 et la chute du mur de Berlin. Sauf que ce qui a réussi en Europe de l'Est a raté à Pékin.
C'est étonnant et saisissant de voir comment des peuples peuvent être privés de leur histoire et donc de leur sens critique, et donc forcément de leur capacité à agir. On va écouter une seconde et dernière archive qui va beaucoup vous intéresser. On va revenir sur les cicatrices et les blessures. Il s'agit d'un extrait du documentaire « Ne pleurez pas sur mon cadavre » de Hu Jie, qui s'est donné pour mission de filmer et enregistrer la mémoire des victimes de cette période de révolution culturelle. Là, il interviewe un homme qui a perdu sa femme, professeur à l'université.
因为当时已经吵架，就我们宿舍里的院子已经到处开始吵架了。À cette époque, Shao Jia était devenu une habitude. Cela voulait dire que des gangs rebelles s'en prenaient aux réactionnaires. Cela veut dire mettre une maison sans dessus-dessous, confisquer ce qui n'était pas détruit, casser les tiroirs, les planchers, et quelquefois casser le toit. Ils détruisaient tout, jetaient par les fenêtres, cassaient, brûlaient, tout ce qu'ils pouvaient. Dans notre cour vivaient beaucoup de chercheurs. Leurs livres ont été brûlés sous leurs fenêtres.
可以征税的东西啊，炸，可能烧的就烧。像我们这个文员院子里面就是八月四号，把这个几个领导干部就是集中那个。
Le 4 août, plusieurs cadres du lycée furent traînés dans les bureaux et battus avec des gourdins. Ils avaient déjà été battus. Cette fois-là, ce fut bien pire. Ils furent battus avec les crosses à bout métallique des fusils d'exercice en bois. Lorsque je suis rentré d'un meeting, vers 22 heures, mon épouse était dans sa chambre. Elle avait été battue une fois de plus. Elle m'a montré ses bleus et ses plaies. Quelques jours auparavant, elle avait pris sa douche en me disant qu'ainsi elle serait propre avant que ses lycéennes la battent à mort. J'ai suggéré de quitter Pékin. Elle a refusé en me disant qu'elle n'avait rien à se reprocher. Elle préférait la mort à la perte de sa dignité. Elle n'ignorait pas le danger. Mais innocente, elle ne voulait pas se dérober.
Oui, qu'est-ce que ça vous inspire, ce que vous venez d'entendre déjà, avant que je vous pose une autre question?
C'est terriblement pathétique. Et c'est d'autant plus pathétique qu'on sent bien qu'aucune distanciation n'a été prise. On n'a pas eu le droit de parler tout ça, on n'a pas eu le droit de demander justice. Ceux qui sont morts, alors littéralement pour rien, n'ont pas été en quelque sorte réhabilités. Les familles n'ont pas pu pleurer les morts. Donc ces blessures sont toujours aussi vives.
Et il faudra du temps.
Mais c'est plus que du temps. Et non, ça s'est transformé en traumatisme. Mmh. Et ces traumatismes sont en train, d'une certaine façon, de décerveler la population chinoise. Puisque l'information ne passe pas, mais les traumatismes restent.
Est-ce que, on voit qu'il y a une part de folie meurtrière dans tous ces événements, et de folie tout court, quelque part. Ça peut rappeler ce qu'ont fait les Khmers rouges. Je m'appuie notamment sur ces intellectuels éduqués dans les campagnes, en Chine. Les Khmers rouges n'étaient même pas éduqués, c'était assassinés dans les campagnes. Est-ce que vous pensez que les Khmers rouges se sont inspirés de la révolution?
Ah mais tout à fait. Les Khmers rouges ont été soutenus par les maoïstes. Et ils ont été instruits. Bon, on dit d'une partie Pol Pot a fait quelques études à Paris, mais enfin je doute que son niveau intellectuel était si élevé que ça, mais on dit qu'il aurait été influencé par Althusser, mais derrière c'était quand même essentiellement les maoïstes, le président Mao, à cause de la rivalité entre le Vietnam et la Chine, le Vietnam étant plutôt alliés avec l'URSS, la Chine donc était forcément alliée avec le Cambodge. Et les Cambodgiens sont venus suivre des cours, en quelque sorte à Pékin, et ils ont tellement bien suivi les cours qu'ils ont dépassé de loin leurs professeurs.
Alors, là où en URSS, Gorbatchev par exemple, a opté pour une politique libérale en termes de société, hein, tout en gardant une économie planifiée, Deng Xiaoping, lui, dans les années 80, a choisi le libéralisme économique tout en gardant un régime autoritaire.
Tout à fait, il a fait l'inverse.
Ouais, il a fait l'inverse, ça a donné ses fruits, en tout cas en Chine, du côté de chez Gorbatchev, c'était quand même beaucoup plus compliqué. Tout ça pour arriver à ma question, puisque vous êtes sinologue, où va la Chine dans le monde, dans le concert international? Peut-être économiquement c'est intéressant, mais en termes de poids géopolitique, c'est quoi les desseins et les visions de la Chine pour elle-même et pour le monde et dans le monde?
À l'heure actuelle, je dirais que pour moi, la Chine est devenue une forme de monstre, en ce sens que d'abord, elle nie son passé, mais elle nie aussi son présent. Elle avance masquée. Xi Jinping se présente dans les divers chancelleries, les divers palais gouvernementaux avec un grand sourire et cet air de gros nounours. Alors qu'en fait, il n'est pas du tout un gros nounours. Si le conflit en Syrie a duré si longtemps, c'est en partie parce que la Chine a toujours mis son veto au Conseil de sécurité de l'ONU pour qu'on intervienne. Donc on n'a pas pu intervenir. Et à chaque fois que la Chine veut défendre ses intérêts, elle n'hésite pas à piétiner les droits ou même la survie des autres peuples. Aujourd'hui, c'est un peu la même chose. On a cette affaire avec la Corée du Nord. On sait que l'économie de Corée du Nord dépend du bon vouloir de Pékin, parce que c'est Pékin qui envoie l'alimentation, le pétrole, enfin, etc. Mais peu importe, on va quand même soutenir un gouvernement qui est devenu complètement délirant.
Merci infiniment, Marie Holzmann. Je rappelle le titre de votre ouvrage, tiré de l'ouvrage de Song Yongi, Les massacres de la révolution culturelle, publié en 2008 chez Buchet-Chastel. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la révolution culturelle en Chine, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons la crise économique en Islande en 2008.